Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de croiser deux histoires, celle du monde avec un petit m et celle du monde avec un m majuscule. En 1945, lorsque les femmes votent pour la première fois en France, le quotidien Le Monde, qui n'embauche aucune femme journaliste, n'y consacre que quelques lignes. Aujourd'hui, 8 décennies plus tard, tout a changé. Les questions d'égalité hommes-femmes sont largement traitées et la rédaction compte autant de femmes que d'hommes à des postes clés. À l'occasion des 80 ans du Monde, je reçois aujourd'hui Anne Chemin, journaliste au service Idées et autrice d'une enquête sur cette révolution qui ne s'est pas faite sans difficulté. De 1944 à 2024, comment la place des femmes a changé dans Le Monde? Un épisode produit avec Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard.
Il faut imaginer dans les années 40, dans les années 50, quand Le Monde est rue des Italiens, que le journal est installé dans un immeuble Haussmann très très classique, un peu défraîchi, avec des longs couloirs, c'est un immeuble labyrinthique, avec des tas de petits bureaux partout. Cet univers, c'est un monde de papier. Et donc, on écrit ces articles sur du papier. Ils sont ensuite tapés par des secrétaires sur un autre papier. Ensuite, ils sont corrigés par des chefs sur un autre papier. Ensuite, il faut les apporter au correcteur. Il faut les envoyer à la claviste. Ensuite, il faut les envoyer à l'imprimerie. Et donc, il faut que ces papiers se baladent toute la journée dans le journal. Et pour ça, il y a ce qu'on appelait à l'époque des garçons de bureau, qui ont un uniforme bleu avec un M doré qui est brodé sur leur uniforme, et qui se baladent et qui vont chercher les papiers écrits par les journalistes, qui les apportent aux clavistes, qui les rapportent ensuite à la correction. Et pour appeler ces garçons d'étage, les chefs avaient sur leur bureau une petite sonnette, comme dans les maisons bourgeoises. Ils sonnaient, et le garçon de bureau qui attendait dans le couloir à l'étage venait dans leur bureau pour prendre les papiers. Et dans ce monde, il n'y a en gros que des hommes. Alors, pas tout à fait que des hommes, parce qu'il y a des femmes à certains postes. Il y a des femmes sténo de presse, il y a des femmes un peu assistantes, il y a des femmes infirmières, il y a des femmes cantinières, puisqu'à l'époque, il y avait une cantine. Mais il n'y a pas de femmes à la rédaction. J'ai retrouvé un document de décembre 44 qui donne le nom et les titres de chacun des journalistes de la rédaction de l'époque. Donc, on est tout au début du journal, juste au moment de la sortie du premier exemplaire, le 18 décembre 44. Et il y a là des noms d'hommes, uniquement des noms d'hommes, sauf un, Germaine Beaumont, qui est une romancière qui a eu le prix Renaudot dans les années 30 et qui va rester en fait très très peu de temps. Elle a écrit 2 papiers dans le journal. Donc la rédaction du Monde, c'est une rédaction héritée du temps, le journal qui s'est sabordé en 42 pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est une rédaction qui est uniquement masculine.
Bonjour Anne.
Bonjour Margot.
Ensemble, on va donc retracer l'évolution de la place des femmes à la fois à la rédaction et dans les colonnes du Monde. Et tu viens de nous raconter le point de départ de cette histoire, une époque qui peut sembler très lointaine, mais qui date d'il y a seulement 80 ans, où les journalistes salariés du quotidien étaient seulement des hommes. Première question, est-ce qu'on sait de quand date le recrutement de la première femme au sein de la rédaction du Monde ?
Oui, on le sait grâce à Patrick Evenot, qui est un historien qui a travaillé sur l'histoire du journal. La première journaliste femme du Monde, c'est Nicole Fievet, elle est recrutée en 48. La deuxième, c'est Christine de Rivoire, une romancière qui va publier beaucoup de livres dans les années 70. Elle est embauchée en 50. Je crois que Claude Sarraute a été embauchée en 53, mais ce sont vraiment des pionnières. Il y a très 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 peu de femmes à cette époque et encore pendant longtemps. Puisque quand Beuve Méry quitte Le Monde en 69, elle ne représente que 11,3% des effectifs au sein de la rédaction. Donc c'est vraiment très très peu. D'ailleurs, elles sont si rares que Jacqueline Piatier, qui est une documentaliste qui a été embauchée au journal assez tôt et qui est ensuite devenue critique littéraire pour les pages littéraires du journal, signait au début J. Piatier, et ça a été le cas jusqu'en 57, donc assez tard. sans doute pour dissimuler le fait qu'elle s'appelait Jacqueline. Personne ne retrouve l'origine de cette drôle d'initiale qui n'a jamais été exigée d'aucun homme. Mais en revanche, Jacqueline Pathier a parlé par exemple à Josiane Savigno. Elle disait clairement, elle, que c'était pour ne pas montrer que c'était une femme. Et d'ailleurs, le chef adjoint du service politique, qui s'appelait Barillon, pensait que le critique littéraire du Monde s'appelait Jérôme Pathier.
Alors, tu viens de citer la journaliste Josiane Savigno, qui est arrivée au Monde dans les années 70 et qu'on entendra plus tard dans ce podcast. Mais pour l'instant, restons-en aux années 1950-1960. Qui sont les rares femmes de la rédaction à ce moment-là? Quel est leur profil?
Alors, il y a deux profils assez différents. C'est un monde quand même complètement d'hommes, donc il faut des profils assez spécifiques. Le premier profil, ce sont des femmes qui sont entrées, entre guillemets, par la petite porte. Donc, c'est le cas de Jacqueline Pathier, qui était rentrée par la documentation, mais il y a aussi beaucoup d'assistantes qui sont devenues peu à peu journalistes. Il y en a d'autres qui ont commencé par la cartographie et petit à petit qui sont imposées dans la rédaction et qui sont devenues journalistes. Le deuxième profil, ce sont des femmes avec un grand prestige social. Donc, c'est le cas, par exemple, de Claude Sarraute, qui est la fille de la romancière Nathalie Sarraute, qui était aussi la femme de Jean-François Revel, qui était un philosophe assez célèbre à l'époque. Claudine Escoffier-Lambiotte, qui a longtemps fait la médecine au journal, vivait au Parc Monceau et avait des responsabilités très importantes dans une fédération de recherche médicale. Yvonne Babi était la fille de l'historien Jean Babi et la belle-fille de l'historien Sadoul. C'était à chaque fois des profils très particuliers, des gens qui naviguaient dans un milieu très bourgeois, très prestigieux, très privilégié et qui ont pu aussi accéder au monde comme ça, pas seulement évidemment, c'est leur talent, mais disons que ça leur a permis de se rapprocher de ce monde-là.
Et comment elles sont accueillies, ces premières femmes à l'époque? Est-ce que tu as pu recueillir des témoignages d'employés et ES qui ont travaillé au Monde dans ces années-là?
J'ai recueilli le témoignage d'Anne-Marie Franchet, qui était la secrétaire de Bianson Ponté, le chef du service politique, et qui me disait que c'était pas facile tous les jours, notamment au service politique. Quand elle est arrivée, il n'y avait ni secrétaire, ni journaliste femme au service politique, c'était un monde 100% homme. Et le chef adjoint du service politique, Raymond Barillon, ne voulait pas qu'il y ait des femmes parce qu'il disait ça perturbe le climat dans le service. Finalement, après une nuit d'élection où on lui a dicté des papiers, c'était plus facile pour aller vite pendant cette nuit d'élection. Bianson Ponté lui a demandé de rejoindre le service et Raymond Barillon l'avait accueilli dans le service en lui disant d'un ton un peu martial « Barillon, 2R, 2L, comme Mitterrand, 2T2R ». Mais surtout, il exigeait qu'elle aille s'enfermer dans un petit bureau, dans un couloir pour taper, parce que le bruit de la machine le dérangeait quand il était en train de travailler.
Ça, c'est pour la composition et la vie de la rédaction. Qu'en est-il dans les pages du journal jusqu'aux années 60? Quels éléments tu as pu retrouver concernant le traitement par Le Monde des sujets d'actualité liés aux femmes à cette époque-là?
Alors, grâce à la documentation, on a pu regarder tout ce qui avait été publié sur les grandes étapes de l'émancipation des femmes. Et là, il faut bien le dire qu'on a été un peu surpris parce que, par exemple, le droit de vote des femmes donc, est accordé en 44 et la première fois que les femmes votent, c'est aux élections municipales de 45. Donc, on est allé voir comment Le Monde avait rendu compte de ces élections municipales. Eh bien, Le Monde signale à peine que les femmes votent pour la première fois en France. On mentionne dans un paragraphe que c'est la première fois, mais c'est quand même très, très, très secondaire. Ça n'apparaît jamais dans les titres. Et il y a même un papier où on dit que l'expérience s'est révélée pas mauvaise. C'est pas mieux pour la nomination de la première femme ministre en 47. Il y avait eu 3 sous-secrétaires d'État sous Léon Blum avec le Front populaire, mais cette fois, c'est vraiment le rang de ministre pour la première fois. C'est même pas signalé dans le journal. Il y a la liste de tous les ministres et cette femme, qui est Germaine Poinceau-Chapuis, est la seule à bénéficier d'une petite notice dans laquelle on signale qu'elle est mariée et mère de 2 enfants, alors qu'aucun des hommes n'a cette petite précision dans sa bio. Et la troisième chose, c'est la publication en 49 du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est quand même le livre un peu fondateur du féminisme français de l'après-guerre. Il n'y a pas de critique de ce livre. Et dans la première mention au sujet de ce livre en 49, donc il est publié en 2 moments différents, c'est un article d'Yves Lorraine qui dit, je le cite, « Je crois, tout homme croira, qu'en voulant dépouiller la femme de son pouvoir d'enchantement, Simone de Beauvoir a tort. »
Je m'appelle Josiane Savigno et je suis arrivée il y a très longtemps aux informations générales en 1977. On a fait beaucoup d'efforts pour me décourager d'être journaliste parce que j'étais pas née dans la bourgeoisie et que j'avais pas de contact. Donc j'ai fait le CFJ et par bonheur, j'ai eu le stage au Monde et j'y suis restée. Et donc, aux informations générales, il n'y avait que des hommes. Il y avait eu une femme avant, Françoise Berger, mais elle était partie. Et c'était la première fois qu'il y avait une femme depuis la création du journal. Et les autres femmes, ben, il y avait des femmes prestigieuses. Il y avait Claudine Escoffier-Lambiotte qui faisait la médecine. Il y avait Françoise Chipot qui était un grand reporter. Et il y avait Yvonne Babi à la culture. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Hein, mais il y avait Jacqueline Piatti qui s'occupait du monde des livres. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et c'était la plupart des femmes, en effet, qui avaient, disons, une famille.
Anne, on vient d'entendre le témoignage de Josiane Savigno, qui est donc arrivée au Monde en 1977. Quelle était la proportion de femmes au sein de la rédaction à ce moment-là? Est-ce que ça avait déjà un peu évolué?
Oui, ça commençait à changer. En fait, les années 70, c'est le moment du basculement, avec l'arrivée de premières femmes journalistes qui ont des parcours un peu différents de ceux qu'on a cités tout à l'heure. On était donc en 69 à 11,3% de femmes. Et 9 ans plus tard, on va arriver à 22,1%. C'est-à-dire que ça double. Bien sûr, elles sont minoritaires, mais on commence à apercevoir de plus en plus de femmes à la rédaction. J'ai retrouvé un organigramme de 85 qui m'a été confié par Robert Solé, qui était à l'époque chef de service. Et cet organigramme mentionne 2 femmes au service étranger, 3 aux politiques, 5 à l'économie et 4 en société. Donc, il y a du mieux. Il y a un début de féminisation, même si les femmes restent minoritaires. En revanche, il y a très peu de femmes dans les chefferies de service. Et du côté des rémunérations, alors là, on n'y est pas du tout, mais c'est difficile de le savoir parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'obligation de publication d'indicateurs sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes, même si tout le monde s'accorde pour dire que c'était le cas.
Et dans les années 70, le monde, avec un petit thème, change beaucoup aussi. Je pense notamment au grand combat pour le droit à la contraception ou à l'IVG. Comment le journal Le Monde traite cette volonté d'émancipation des femmes à l'époque?
Alors là, dans les années 70, on voit vraiment un changement par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur les années 40 et les années 50. Donc, Le Monde accompagne et épouse les combats des féministes des années 70 sur tous les sujets que tu as évoqués là. Il y a des papiers à l'époque très engagés sur la question de la défense de la contraception qui va être acquise par la loi de Neuwirth en 1967. Il y a aussi un suivi très précis et très engagé des débats parlementaires sur l'IVG en 75. J'ai relu beaucoup de papiers de Claudine Escoffier et Lambiotte à l'époque qui se rangent résolument du côté de la légalisation de l'avortement.
Il aura fallu des siècles, jalonnés de massacres gynécologiques, de souffrances et de morts, pour que le corps médical se préoccupe enfin d'un acte accompli chaque année dans le monde, dans la solitude, dans la honte et dans la clandestinité, par plus de 50 millions de femmes.
Ce qui pose problème dans ces années-là, c'est qu'en fait, il y a un modèle assez rigide de suivi des sujets au monde qui consiste à avoir des spécialités. On est spécialisé dans les sciences, on est spécialisé dans la défense. Et que le combat des femmes et du féminisme dans ces années-là est multifacette. Il dénonce le patriarcat dans tous les secteurs de la société. C'est très complexe, très ample. Et personne n'est chargé de cette rubrique-là parce qu'elle n'existe pas. Du coup, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important, c'est Bruno Frappin, qui est officiellement rattaché au service éducation, mais qui va s'intéresser beaucoup à ce mouvement des femmes parce qu'il va beaucoup à Nanterre. Il s'y passe évidemment beaucoup de choses sur la question de l'enseignement supérieur. Il va y rencontrer beaucoup de féministes et du coup, il va suivre cette question du féminisme. Il va notamment assister à des avortements clandestins avec Maya Surdut, qui était à l'époque la responsable du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Il faut attendre en fait 1980 pour que le journal considère que la rubrique égalité homme-femme, qu'on va associer aussi à la rubrique enfance et à la rubrique famille, est un titulaire particulier qui sera Christiane Chambaud.
Donc petit à petit, la rédaction se féminise un peu, même si on est encore loin de la parité et de l'égalité salariale. Le traitement de l'émancipation des femmes dans le journal change aussi. Mais est-ce que l'accueil réservé aux rédactrices du Monde est meilleur dans les années 70 et 80? Pour amorcer ce sujet, Anne, je te propose qu'on écoute un autre passage du témoignage de Josiane Savigno.
Le bureau du directeur était immense, mais le directeur était extrêmement courtois. Il n'est pas resté derrière son bureau, il est venu s'installer dans un fauteuil à côté de moi. Et il a commencé à me poser des questions complètement aberrantes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ferait frémir les gens. Moi, ça m'a un peu étonnée quand même. Il m'a demandé si j'habitais chez mes parents. Je lui ai dit que non, quoi. J'étais une fille déjà indépendante. En plus, je n'étais pas si jeune que ça. Hein. J'avais 26 ans, je pense. Et ensuite, il m'a demandé si je pensais faire des enfants. tout en me disant mais surtout, je vous encourage à en faire, mais c'était visiblement pour savoir si j'allais tomber enceinte dans les 3 mois suivants.
Anne, tu fais toi-même partie des journalistes qui ont rejoint Le Monde à cette époque, à la fin des années 80 en l'occurrence. Quels sont tes souvenirs sur ce point et ceux des autres journalistes que tu as pu interroger pour ton enquête ?
Je crois que je dirais que j'ai le même sentiment que les femmes que j'ai interviewées et qui m'ont raconté leur arrivée au journal dans ces années 70 et 80, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choses gravissimes, des choses qui auraient pu être très blessantes. En revanche, je me souviens quand même de petites choses qui étaient assez désagréables. Par exemple, quand on est la seule femme dans une réunion, quand on arrive, il y a toujours un petit moment de silence qui indique que, pas forcément que les gens disaient des choses affreuses, mais qu'on trouble une sociabilité masculine qui s'était bien installée. Je me souviens aussi de repas de midi où j'étais pas vraiment invitée, où on sentait que c'était un repas masculin, un peu arrosé, dans une brasserie. Je me souviens aussi d'un sentiment de moindre légitimité quand on prend la parole, notamment en réunion. Voilà, ça m'a pas empêchée, et je crois à beaucoup d'autres femmes non plus, de travailler très bien, d'être très fière de travailler pour ce journal, d'être fière aussi de ce qu'ils publiaient, notamment sur la question des femmes. Mais il y avait, comme partout ailleurs dans ce monde des années 80 et 90, des petits signes qui vous disaient que vous n'aviez pas tout à fait spontanément la même légitimité que vos collègues masculins.
Et au-delà de cette ambiance que tu décris, est-ce que parmi les témoins que tu as interrogés, certaines font état de faits plus graves survenus au sein de la rédaction dans ces années-là, comme du harcèlement ou des violences sexuelles ?
Oui, j'en ai recueilli 3. Donc, une journaliste qui a été plaquée contre un mur dans un parking par un rédacteur en chef qui l'a embrassée de force. Une autre qui recevait la nuit des coups de téléphone avec un de ses collègues qu'elle avait reconnu à cause de sa voix et qui mimait des râles. Et une autre qui, en annonçant sa grossesse au directeur adjoint de la rédaction, s'est entendue dire « Je sais que tu es enceinte, j'ai vu que tes seins avaient grossi ».
Donc Anne, on continue de dérouler l'histoire du Monde avec un M majuscule. On arrive au début des années 90 et c'est la décennie qui voit la féminisation de la rédaction s'accélérer assez nettement, c'est ça ?
Oui, dans les années 90-2000, il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans cette rédaction, au point d'ailleurs qu'en 2002, Le Monde compte 40% de rédactrices, on est presque à la mixité. Donc ça change beaucoup de choses et surtout elles sont dans tous les services économie, le service international, le service politique. La rédaction est arrivée à un moment où elle est vraiment pleinement mixte.
Une rédaction pleinement mixte et dont la hiérarchie commence à bouger aussi. En 2004, une femme est nommée directrice adjointe de la rédaction du Monde pour la première fois. Cette femme, c'est Sylvie Kaufmann, qui est toujours éditorialiste au Monde et que les auditeurs de l'Heure du Monde connaissent bien. Je te propose qu'on écoute le récit de son expérience.
On est 4 ou 5 directeurs adjoints de la rédaction et je suis la seule femme. Et d'ailleurs, je me souviens que je n'étais pas spécialement enthousiaste à l'idée de prendre ses responsabilités, d'accepter ce poste. Et Jean-Marie Colombani me dit « Mais Sylvie, vous ne pouvez pas être tout le temps en train de râler parce qu'il n'y a pas de femmes dans les positions hiérarchiques et la refuser quand on vous la propose. » Donc j'y vais et je me trouve donc dans une équipe uniquement masculine. Tous mes collègues n'étaient pas tous agressifs ou dans le rapport de force, mais l'exercice du pouvoir, en fait, la méthode d'exercice du pouvoir qui prévaut est celle du rapport de force. Ça a été vraiment très difficile. J'ai essayé de discuter, ça n'a pas marché. J'ai provoqué une espèce de réunion de conciliation qui était assez ridicule, je dois dire, mais qui n'a pas donné grand-chose non plus. Donc finalement, je me suis dit, en fait, ça ne me plaît pas, ce n'est pas le journalisme que j'ai envie de faire. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Donc j'ai eu l'occasion de repartir en poste à l'étranger, en Asie, et je suis partie. Et puis, 3 ans plus tard, Eric Fotorino, qui était devenu directeur du journal, m'a appelé, m'a demandé de venir prendre la direction de la rédaction cette fois-ci. Et là, je me suis dit, bon, là, j'ai l'occasion de, puisque je serai un poste d'autorité, d'imposer une autre manière d'exercer le pouvoir. Et pour moi, la clé de ça, c'était de ne plus être seule, de ne plus être la seule femme dans une équipe d'hommes. Et là, je dois dire, c'était compliqué parce que mes collègues femmes étaient toutes très chaleureuses, très en soutien. Mais quand je leur demandais de venir me rejoindre dans l'équipe, c'était autre chose. C'était alors d'abord cet argument qu'on n'entend que chez les femmes qui est « Ah mais je ne suis pas capable !» Jamais j'ai entendu un de mes collègues masculins me dire ça. Voilà, après il y avait évidemment les questions familiales, etc. Ça, j'ai mesuré aussi un peu l'ampleur du défi pour amener les femmes dans une équipe de pouvoir. Voilà.
Sylvie est donc devenue la première directrice de la rédaction en 2010 et la dernière forteresse masculine est tombée en 2012 avec la direction du journal, puisque Nathalie Nougared est devenue directrice cette année-là.
Donc petit à petit, les femmes prennent les forteresses masculines du journal, comme tu dis, on tend vers la parité. Et là, un événement va venir pousser la rédaction à interroger encore davantage son fonctionnement. Cet événement, c'est le mouvement MeToo.
Quand MeToo éclate en novembre 2017, le journal comprend vite que c'est un événement important, qu'il a de multiples facettes et qui va durablement changer les choses. Et il se passe du coup quelque chose d'assez inédit. Le directeur de la rédaction, Luc Brunner, va convoquer une réunion qui ne ressemble à aucune autre réunion traditionnelle de journal. C'est-à-dire que ce n'est pas une conférence quotidienne sur ce qu'on va mettre dans le journal le lendemain, qu'on a tous les jours à midi. Ce n'est pas non plus un comité de rédaction où chacun donne son sentiment sur un grand problème. C'est une réunion ouverte à tous, chef ou pas chef, dans lequel le seul ordre du jour est parler librement du harcèlement. Et à cette réunion vont venir beaucoup de gens qui sont à l'époque dans la rédaction numérique, le web, qui sont des trentenaires, beaucoup de femmes. La parole va être très très ouverte et très libre. Et là, Luc Brunner et tous ceux qui sont à cette réunion comprennent qu'il va se passer quelque chose qui va ébranler à la fois le monde avec un petit M et le monde avec un grand M.
Et pour traiter ces sujets-là, Le Monde avec un grand M va se doter d'une task force dédiée. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se met en place ?
L'idée, c'était de réunir dans cette task force une trentaine de journalistes volontaires qui, tout en continuant à suivre la rubrique habituelle dont ils étaient chargés, font des papiers avec une réunion mensuelle sur MeToo. Et ça va beaucoup changer le traitement de MeToo parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes au long cours qui vont être menées dans cette task force avec des règles assez strictes sur la manière dont on travaille, le fait de rencontrer par exemple les témoins toujours à plusieurs, le fait de vérifier le récit dans ses moindres détails et surtout en cas d'hésitation de ne pas publier.
Et Anne, cette task force, elle est dirigée par deux femmes qui n'ont pas été choisies au hasard.
Oui, elles ont été choisies parce qu'elles incarnent deux profils très différents. La première, c'est Sylvie Kaufmann, que vous avez entendue, qui a un long parcours au journal, très prestigieux, qui a été correspondante à l'étranger. Et Hélène Beckmézian, qui vient du web, qui est plus jeune et qui a alerté très vite la direction de la rédaction sur le mouvement MeToo, qui a donc une sensibilité sur le féminisme et les réseaux sociaux qui est très différente de celle de Sylvie.
Deux générations et deux visions du féminisme donc qui vont parfois s'entrechoquer, notamment lors d'un débat en janvier 2018 autour de la publication d'une tribune signée entre autres par Catherine Deneuve, c'est ça ?
Oui, c'est une tribune sur la liberté d'importuner. C'était une tribune très critique sur MeToo qui était signée par Catherine Deneuve, effectivement, mais aussi par Catherine Millet et par beaucoup d'écrivaines. Cette tribune disait en gros qu'on allait tuer la séduction et que c'était un mouvement puritain. Cette tribune a été publiée dans les colonnes du journal. Elle a été plutôt bien acceptée du côté de la rédaction du journal papier, où on la défendait non pas parce qu'on adhérait à ce qui était écrit dans ce texte, mais parce qu'on pensait qu'il fallait accueillir des textes d'horizons différents au nom de la liberté d'expression. En revanche, elle a été très très critiquée par la rédaction du web, où il y avait beaucoup plus de trentenaires qui étaient sensibles à une autre vision du féminisme et qui disaient non seulement c'est contraire à nos engagements et nos éditoriaux, ce texte, mais en plus comment va-t-on travailler au sein de la task force auprès de victimes de harcèlement alors qu'on publie des textes disant que ces gens qui se plaignent de harcèlement font beaucoup d'histoires et feraient mieux de se taire.
Et au-delà de ces débats éditoriaux et des méthodes d'enquête que tu nous as décrites, est-ce que le mouvement MeToo a poussé Le Monde à s'interroger sur son propre fonctionnement, sur sa propre histoire ?
Oui, ça a poussé le monde à s'interroger sur deux choses, sur le harcèlement, bien sûr, et sur l'égalité salariale. Alors, sur l'égalité salariale, les choses allaient pas trop mal au moment où MeToo éclate, en 2017, puisque depuis 2015, la direction avait confié deux enveloppes à la commission des salaires, une enveloppe pour les augmentations traditionnelles au mérite et une enveloppe qui était uniquement consacrée au rattrapage des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de la rédaction. Et ça a été très efficace, puisque l'écart de rémunération est passé de 20% en 2002 à 1,64% en 2023. Donc là, il y a eu un vrai travail de réaliser sur la question des salaires. Sur le harcèlement, en fait, c'est une question qu'on n'avait jamais envisagée vraiment sérieusement au journal. Et donc, la direction a chargé un cabinet de conseil qui s'appelle EGAE, qui est dirigé par Caroline Dehaas, de faire une enquête auprès de la rédaction qui a fait remonter beaucoup de témoignages de malaise, d'agression, de harcèlement, etc. Et du coup, on a mis en place une cellule d'écoute qui est toujours active aujourd'hui. Et il y a une enquête tous les ans qui est réalisée par le cabinet EGAE sur la question du harcèlement au journal.
Merci Anne.
Merci Margot.
J'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs et auditrices à qui cet épisode a donné envie de lire ton enquête sur l'évolution de la place des femmes dans les colonnes et à la rédaction du Monde. Cet article est à retrouver gratuitement dès maintenant sur lemonde.fr. Et si vous aimez l'heure du Monde, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser un commentaire. L'heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.